Rien n'émeut tant un homme d'âge qu'un aveu d'inexpérience confessé par un cadet, surtout si ce dernier est hiérarchiquement son supérieur. Sous les paupières de tortue, le regard de gaucher se voila un peu. « Ah, j'oubliais, reprit Philippe. J'ai décidé que vous seriez tuteur du futur enfant de Madame Clémence, notre roi, donc, si Dieu veut que ce soit un garçon, et son second parrain tout aussitôt après moi. « Monseigneur Philippe, dit le connétable tout ému. » Et il se pressa dans les bras du régent, comme s'il avait été le fautif. « Pour la marraine, dit encore Philippe. Nous avons décidé avec Madame Clémence, afin de couper à tous les méchants bruits, que ce serait la comtesse Mao. » 8 jours plus tard, le connétable reprenait la route d'Artois. Robert, comme on pouvait le prévoir, refusa de se soumettre à la semonce et continua de sévir à la tête de ses bandes cuirassées. Mais le mois d'octobre ne fut pas bon pour lui. S'il était guerrier violent, il n'était pas grand stratège. Il lançait ses expéditions sans ordre, un jour au nord, le lendemain à midi, selon l'inspiration de l'instant. Reître avant les reîtres, comte de Thiers et avant les comtes de Thierry, il était mieux désigné pour mettre sa force guerrière au service d'autrui que pour se commander lui-même. Dans ce comté qu'il considérait sien, il se conduisait comme en territoire ennemi, menant enfin la vie sauvage, dangereuse, frénétique qui lui plaisait. Il se réjouissait de la peur qui naissait à son approche, mais ne voyait pas la haine qu'il laissait sur ses pas. Trop de corps pendus aux branches, trop de décapités, trop d'enterrés vifs au milieu des grands rires cruels, trop de filles violées qui gardaient sur la peau la marque des cottes de maille, trop d'incendies jalonnaient sa route. Les mères disaient aux enfants pour les faire tenir sages qu'on allait appeler le comte Robert, mais si on l'annonçait dans les parages, elles prenaient aussitôt leur marmaille dans leur jupe et couraient vers la première forêt. Les villes se barricadaient. Les artisans, instruits par l'exemple des communes flamandes, affûtaient leurs couteaux et les échevins gardaient liaison avec les émissaires de gaucher. Robert aimait les batailles en rase campagne. Il détestait la guerre de siège. Les bourgeois de Saint-Omer ou de Calais lui fermeraient-ils les portes au nez? Il haussait les épaules en disant « Je reviendrai un autre jour et vous ferez tous crever !» Et il allait s'ébattre plus loin. Mais l'argent commença à devenir rare. Valois ne répondait plus aux demandes, et ses rares messages ne contenaient que de bons sentiments et des exhortations à la sagesse. Ptolomei, le chef banquier Ptolomei, faisait lui aussi la sourde oreille. Il était en voyage, ses commis n'avaient pas d'ordre. Le pape lui-même se mêlait de l'affaire. Il avait écrit personnellement à Robert et à plusieurs barons d'Artois pour leur rappeler leurs devoirs. Puis un matin de la fin d'octobre, le régent, comme il tenait conseil, déclara avec la grande tranquillité dont il accompagnait ses décisions « Notre cousin Robert a trop longuement moqué notre pouvoir. Puisqu'il faut nous résoudre à la guerre, nous prendrons donc contre lui l'oriflamme à Saint-Denis, le dernier jour de ce mois. Et comme messire gaucher est absent, l'ost que je conduirai moi-même sera placé sous le commandement de notre oncle. » Tous les regards se tournèrent vers Charles de Valois. Mais Philippe continua. « De notre oncle, Monseigneur d'Evreux. Nous aurions volontiers confié cette charge à Monseigneur de Valois, qui a fait ses preuves de grand capitaine, si celui-ci n'avait à se rendre en ces terres du Maine pour y percevoir les annates de l'Église. « Je vous remercie, mon neveu, répondit Valois, car vous savez que j'aime bien Robert, et que tout en désapprouvant sa révolte qui est grosse sottise d'entêté, j'aurais eu des plaisirs à porter les armes contre lui. » L'armée que réunit le régent pour monter en Artois ne ressemblait en rien à l'ost démesuré que son frère, 16 mois plus tôt, avait enlisé dans les Flandres. L'ost pour l'Artois se composait des troupes permanentes et de levées faites dans le domaine royal. Les soldes y étaient élevés, 30 sols par jour pour le banneret, 15 sols pour le chevalier, 3 sols pour l'homme de pied. On appela non seulement les nobles, mais aussi des roturiers. Les 2 maréchaux Jean de Corbeil et Jean de Beaumont, seigneur de Clichy, dit le Déramé, rassemblèrent leurs bannières. Les arbalétriers de Pierre de Galard étaient déjà sur pied. Geoffroy Cocatrix, depuis 2 semaines, avait reçu secrètement des instructions pour prévoir les transports et les fournitures. Le 30 octobre, Philippe de Poitiers prit l'oriflamme à Saint-Denis. Le 4 novembre, il était à Amiens, d'où il envoyait aussitôt son second chambellan, Robert de Gamache, escorté de quelques écuyers, porté au comte d'Artois une dernière sommation.